Mais nous nous sommes réjouis d'entendre ce qu'ils nous ont partagé. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ça. Le calendrier est ce qu'il est, ça tombe sur moi, mais c'est très bien. 1 Corinthiens 13. Prenez vos Bibles. Peut-être que vous serez moins souriant tout à l'heure. 1 Corinthiens 13. Lors de notre étude sur le Saint-Esprit, je crois que c'était le 12 juin dernier, ici, un jeudi, à la fin de l'étude, une question a surgi par l'une de nos sœurs, à savoir comment parler de communion dans le Saint-Esprit avec tous les frères et sœurs, bien sûr, mais alors que tous dans l'Église ne sont pas dans le Saint-Esprit. C'était assez pertinent, c'était une bonne réflexion, parce qu'effectivement, dans l'Église, tous ne sont pas au Seigneur. Ce n'est pas à nous de faire le tri, ce n'est pas à nous de juger, c'est à nous d'avoir les uns et les autres du discernement pour encourager les uns et les autres qui sont peut-être en réflexion, en chemin. Un collègue à qui je partageais l'Évangile il y a un peu plus de 6 ans de cela, c'était un commissaire qui avait quelques difficultés personnelles, et c'est assez rare de pouvoir parler ouvertement de la foi et d'aller pratiquement jusqu'au bout de l'annonce de l'Évangile. Et à la fin de l'entretien, il me dit « Mais qui peut croire ?» Et il me semble qu'il avait saisi la distance qui le séparait de Dieu à cause du péché, sans pour cela avancer à ce moment précis dans la foi. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Jean 6, 44. Nous sommes des vecteurs de cet appel, des témoins sans être des acteurs de pouvoir de conversion. L'apôtre Paul qualifie ce ministère de ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qui est suffisant pour ces choses? 2 Corinthiens 2, 15 et 16, Paul y évoque le ministère qui est le sien et de ceux qui proclament la parole avec lui. Qui est suffisant pour une telle mission? Jamais nous n'atteindrons la norme de Dieu, dont l'essence même est d'être amour. Jean 3, 16, nous le connaissons par cœur. Alexander écrit à cet égard, un théologien, dit « Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est de croire et de vivre en conséquence. L'homme apprend de Dieu à recevoir et Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a détruit ses œuvres et son enfant participe à cette victoire. Le service pour Dieu est un don de grâce et les moyens pour l'accomplir sont également des dons. Nous approchons d'un Corinthiens 13, 12, 14. Pour nous permettre de vivre une vie agréable au Père. Le médiateur de cette nouvelle alliance est venu demeurer dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et puisque Christ habite dans nos cœurs par la foi, la grande et glorieuse tâche de proclamer son nom de lieu en lieu devient une réalité efficace et fructueuse. Nous avons reçu le revêtement de l'Esprit du Seigneur, glorifié, et nous lui servons de témoins joyeux et triomphants. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et le parfum de Christ se répand non seulement autour de nous sur les âmes perdues, mais comme un encens. Il monte au Père qui nous rend capables de lui être agréables. Nous ne nous rendons pas capables par nous-mêmes. C'est Dieu qui donne cette impulsion. Et à ceux qui se demanderaient que faire de l'enseignement, voilà déjà une bonne partie de la réponse, n'est-ce pas ? L'absolu est placé devant nos yeux, non pour nous décourager, mais pour voir clairement ce qui est susceptible de nous rendre heureux dans nos relations, dans l'Église et vers l'infini et au-delà, comme le dit Buzz l'éclair dans Toy Story. Parce que seul l'amour demeure éternellement. C'est en 2 Corinthiens 12, verset 5, que Paul dit à l'église de Corinthe, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Il ne faut pas occulter cette dernière partie de phrase. Mais plus loin, il écrit dans la deuxième partie du verset 9, « Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » Les Corinthiens que nous fréquentons à distance depuis quelques mois se croyaient forts et mettaient Paul en difficulté. Mais l'apôtre écrit au verset 11, « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Il y a 2 semaines, après le culte, je me souviens m'être fait la réflexion que je n'avais eu dans les brefs et moins brefs contacts que des échanges agréables et chaleureux. Ça fait du bien. Il y a souvent des questions difficiles, des points d'accrochage, mais même à Corinthe, l'apôtre ne désespère pas. Il encourage, mais met néanmoins toutes choses bien à leur place. À ce stade, je crois que nous pouvons lire ce passage de 1 Corinthiens 13 et nous lisons ensemble. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je lis dans la version Sommer pour ceux qui seraient un peu perdus. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres et il ne trame pas le mal. Il ne conçoit pas le mal dans d'autres versions. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement, dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ce magnifique passage n'a en fait rien de vraiment obscur. Il est en réalité tellement clair qu'il produit une certaine gêne pour le lecteur sincère en tout cas. C'est un peu étrange de trouver cet hymne à l'amour à la suite de tout ce que Paul a déjà évoqué dans les chapitres précédents. Serait-ce le reflet de la relation que Paul partage avec les Corinthiens? Rien n'est moins sûr. Ce passage si beau et exaltant, souvent choisi aussi dans le cadre de mariage, tant il donne des perspectives enthousiasmantes, mais pas toujours réaliste. La première aux Corinthiens est plutôt une lettre de reproche, n'est-ce pas ? Nous le savons, avec des questions de comportement qui touchent au paganisme ambiant, aux mœurs sexuelles, l'esprit de parti dans les quatre premiers chapitres, l'inceste au chapitre 5, les procès entre membres de la communauté et la fréquentation des prostituées au chapitre 6, l'ignorance des faibles en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles et les banquets connexes dans les chapitres 8 à 10, et la discrimination entre riches et pauvres au chapitre 11, la mise en doute, et c'est pour après, de la résurrection finale au chapitre 15. Et au milieu de tout cela, il y avait une pratique de dons spirituels dont nous sommes entretenus dans le chapitre 12, avec beaucoup de doigté d'ailleurs. Dans l'esprit des Corinthiens, on faisait une distinction entre ceux qui avaient l'esprit de Dieu, je reviens à mon propos de tout début, et bénéficiaient de son action, et ceux qui ne l'avaient pas. Ceux qui avaient atteint un certain niveau spirituel et les autres. Au chapitre 14, il entrera dans les détails sur la façon de pratiquer ou non le parler en langue dans le culte et la place plus prééminente de la prophétie, c'est-à-dire d'un message adressé à tous et à la place prééminente de la prophétie, c'est-à-dire d'un message adressé à tous qui édifie, exhorte, console. 1 Corinthiens 14, 3. Et entre le chapitre 12 et le chapitre 14, viennent s'insérer ces versets décrivant le charisme essentiel qui seul peut donner une validité à tous les autres dons spirituels. D'une certaine façon, il ne s'agit pas tant d'un don parmi d'autres que de ce qui doit sous-tendre l'ensemble des dons et déterminer la façon dont ils s'exercent. C'est un peu comme ce qu'Adrian Price évoquait dimanche dernier par rapport à la musique dans l'Église et à la manière dont elle est exercée. Non pour se mettre en avant en tant que musicien, mais pour plaire à Dieu et aider l'Assemblée à élever son chant, à s'édifier tout cela dans une parfaite humilité. Tout d'abord, Paul relativise à Corinthe la valeur des dons spirituels les plus spectaculaires, dans la mesure où ils sont séparés de l'amour. C'est pour se mettre en valeur, et ça, nous pouvons tous facilement le comprendre. Sans entrer dans le détail de la mention du chant des anges, si l'on avait, dit-il, la capacité de comprendre et de parler non seulement toutes les langues humaines, mais encore celles dont les anges eux-mêmes se servent pour adorer Dieu dans le ciel, mais sans amour, ce ne serait qu'un son creux, un tintamarre qui agresse les oreilles. Soyons clairs, un tel don va infiniment au-delà de ce qui se vivait concrètement, que ce soit à Corinthe ou dans n'importe quelle autre communauté chrétienne. Il ne décrit pas ce qui se pratiquait dans l'Église. Pourtant, s'il était possible de posséder et utiliser ce don-là, mais de façon non à édifier l'Église, mais à s'élever par-dessus les autres, ce serait dénué de toute valeur spirituelle. Les conclusions qu'il faut en tirer pour le culte à Corinthe, bien en dessous d'une telle pratique hypothétique, se devine sans difficulté. Sans amour, c'est spirituellement nul et non avenu. Et pour les trois exemples suivants, l'exégète britannique Wenham fait remarquer que l'apôtre reprend ici l'enseignement de Jésus lui-même. La connaissance des mystères rappelle la parole de Jésus au sujet des mystères du royaume de Dieu, qu'il est donné aux 12 disciples de connaître, en Matthieu 13. La foi qui transporte les montagnes s'inspire de l'enseignement de Jésus que l'on retrouve en Marc 11. Et l'idée de donner toutes ses possessions aux pauvres semble faire allusion à la parole adressée au jeune homme riche dans les évangiles. « Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres », Matthieu 19, verset 21. Et je cite Donald Cobb de la faculté d'Aix-en-Provence, professeur du Nouveau Testament. « Quand bien même on serait le disciple idéal, tel que Jésus le définit, doté des qualités qui sied à ceux qui se mettent à la suite du Maître, sauf l'amour, il n'en reviendrait aucun profit au-delà des dons spirituels et des charismes, et même d'une certaine façon, indépendamment d'eux, ce qui fait le chrétien, c'est l'amour. Autant dire que l'amour est l'ingrédient essentiel de la vie chrétienne, et il ne serait sans doute pas exagéré, même si cela nous obligeait à refaire notre théologie, ou en partie de dire que sans l'amour, on n'est pas chrétien. On n'est pas disciple de Jésus-Christ, quelles qu'en soient les apparences. C'est frapper fort, n'est-ce pas ? Paul est délicat parce qu'il utilise le « je ». Il ne prend pas les Corinthiens de front. Il y va avec douceur, malgré tout ce qu'il sait de la vie de l'Église de Corinthe. Ne pas concevoir le mal peut nous paraître évident, mais il y a bien plus que cela. C'est la notion de garder rancune. comptabiliser ce qui nous a fait mal. La charité qui n'a pas de mémoire. L'amour ne garde pas rancune. C'est l'oubli et nous savons combien cela peut être difficile. Au verset 7, dans une autre version que celle que nous avons lue, celle sera la plus connue, « L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » Dans quel sens faut-il comprendre cette apparente soumission aux pires méchancetés et aux pires outrages ? N'oublions pas qu'il s'agit de frères et sœurs et que les exégètes s'accordent pour mettre l'accent sur le fait de ne pas enfermer l'autre dans son péché. Il faut continuer à espérer. Il peut changer d'attitude. Il peut se repentir. Espérer toujours en ce sens, l'amour ne succombe jamais. Cette démarche de persévérance n'est toutefois pas plus facile que la précédente. Notons encore qu'un lien existe en 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est patient, il est plein de sollicitude » et Galates 5, 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience. » C'est dans les deux lettres une marque de l'œuvre de l'Esprit. Il y a l'œuvre de l'Esprit-Saint, d'une part, et notre volonté et notre amour-propre, de l'autre part. Ce que nous comprenons, c'est que l'amour ne cherche pas son propre intérêt dans les versets 4 à 7 de notre passage. Regarder avant tout à nous-mêmes est le plus souvent notre premier réflexe. Alors qu'ici, Paul nous invite à prendre patience en nous souciant premièrement de l'autre sœur ou frère en Christ. L'amour est un sentiment très fluctuant et fragile qui sévit dans le monde autour de nous. Donald Trump aime maintenant les dirigeants européens qui aiment leur peuple et leur pays. Voilà qui a bien changé. Nous verrons quand on en viendra au budget réel mis en œuvre dans le cadre de l'OTAN. Peut-être que cette relation positive va à nouveau changer. Je prends un exemple plutôt distant. Mais nous saurons, chacun, voir ce qui nous touche plus personnellement. L'amour est le plus souvent porté par des émotions dans les relations interpersonnelles, mais l'apôtre parle ici pour l'Église et envisage un comportement stable dans le chef des croyants. Nous ne devrions pas non plus confondre l'amour avec la convivialité. Ah, un mot bien souvent utilisé, qui peut aussi être vécu dans l'Église et qui pourrait se limiter à ceux qui pensent comme nous. Mais un amour qui se construit là où les atomes crochus sont absents, non sur une base de convivialité, mais de support mutuel. Je sais que cela n'est pas évident. Et c'est bien en Christ que nous devons nous retrouver pour partager ce qui compte vraiment. Ah, que ce magnifique passage se révèle difficile à mettre en œuvre. L'amour qui demeure. Il existe tout un débat sur la permanence ou non des dons de prophétie et de langue. Je peux vous renvoyer au tout récent ouvrage de Florent Varac, avec pour thème le Saint-Esprit, et qui traite notamment de cet aspect de la cessation d'un certain nombre de dons spirituels, comme le parler en langue, comme les guérisons au sens large. D'autres auteurs sont du même avis. Et il est vrai que pendant 1800 ans, on n'a plus parlé du parler en langue. Ce débat ne préoccupait pas Paul à ce moment-ci précis. Tout ce qui a trait à une communication spirituelle, sous les diverses formes reprises ici, toute révélation, toute notre connaissance de chrétien est destinée à être dépassée dans le royaume éternel. Tout ce que Dieu communique aujourd'hui est vrai, mais apparaîtra comme partiel, fragmentaire. Notez cette relation à l'enfance et à l'âge adulte. La connaissance de l'enfant est utile, appropriée, mais destinée à évoluer, à mener vers un accomplissement d'adulte. Nous sommes en formation et la destinée finale n'est pas encore atteinte. Voilà le message. Connaître comme nous avons été connus. Et nous pourrions sortir à la fois émerveillés et tristes après la lecture de ce passage. L'apôtre est bien conscient que les Corinthiens ne vivent pas tout cela dans leur relation d'Église. Qui d'entre nous, d'ailleurs, pourrait prétendre être pleinement dans cet exercice de l'amour, désintéressé, modeste et soumis pleinement au Saint-Esprit ? Il y a des passages qui nous montrent que cela ne dépend pas de nos forces propres, que l'amour est un fruit de l'Esprit et aussi un don de Dieu. Il y a une quinzaine de passages où Paul met en relation cet amour avec Dieu, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, la Trinité. Je prends quelques exemples. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. « Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Je n'avais jamais vu ce court verset avec toute sa pertinence. Remarquez que le contexte précise au verset 2 que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Et au verset 3, le Seigneur vous affermira et vous protégera du mal. Et en 2 Corinthiens 13, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous comprenez toute la pertinence de ce verset, souvent lu pour une fin de culte ? Éphésiens 6, verset 23, « Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. » L'amour est un don de Dieu dont on se revêt comme on revêt Christ. Cet amour est une exigence posée à la communauté chrétienne et à ses membres. Le vrai modèle humain dont parle Paul se sert d'exemple est celui de Jésus de Nazareth, mais fils de Dieu en qui tout s'accomplit et qui donne l'injonction d'aimer, mais aussi l'impulsion. C'est de la spiritualité d'un certain niveau, je le concède, mais ne reculons pas devant la difficulté. La foi, l'espérance et l'amour sont les caractéristiques essentielles de la vie du chrétien. Mais l'amour, écrit l'apôtre, est différent. C'est l'aboutissement du voyage du chrétien dans la présence éternelle de Dieu. Aimer en vérité, c'est participer dès à présent ce que nous vivrons dans l'éternité. Finalement, passer une journée sans ressentiment, n'est-ce pas une excellente journée ? Est-ce que ça nous arrive ? Comme les Corinthiens étaient influencés par leur contexte sociétal, nous le sommes aussi, et dans une société qui tourne essentiellement autour de l'épanouissement personnel et des droits de l'individu. J'ai lu cette semaine qu'une entreprise qui a décidé de limiter le télétravail de ses employés a vu 25% de son personnel démissionner. Un exemple parmi d'autres. La communauté des croyants n'offre pas toujours le plus beau reflet de l'amour de Dieu. Et pourtant, c'est notre rôle, même dans la faiblesse, de nous relever et de saisir l'amour que Dieu nous donne et montrer que le sens premier est le sacrifice de Christ pour le monde pécheur et non les bons sentiments humains. Je complète enfin le parcours par un élément évoqué au début de ce message par ce qui est dit au verset 4. Il ne cherche pas, l'amour, n'est-ce pas, à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Dans son étude sur le disciple, James Eliot Hinson, directeur de l'Institut biblique ici, met en garde contre l'hypocrisie sur base de Matthieu 6, qui parle d'une relation intime et discrète avec Dieu, et non d'une religion ostentatoire, qui est, selon lui, une sorte d'esclavage. L'esclavage du regard des autres dans l'Église. Comment est-ce que je me présente ? Une quête de l'approbation des autres qui ne donnera rien de plus. La récompense est eschatologique, c'est pour la fin des temps. Mais celui qui, dans ce sens, manifeste son orgueil n'aura rien de plus que cette approbation des hommes. Point barre. Chercher à se faire valoir, s'enfler d'orgueil, se retrouve dans Matthieu 6 un peu comme un show pour solliciter l'approbation des autres. Se faire voir. L'exemple de la prière ostentatoire, mais aussi la prière mécanique, irréfléchie, n'est pas plus recommandable dans cette perspective. Fin de cette incise. Prenons garde à ne pas nous laisser tenter par une telle attitude dans l'Église et particulièrement dans le service. Une personne dans l'Église m'a offert il y a quelques semaines un livre intitulé « Le don suprême », il n'y a pas de hasard, qui est une adaptation libre d'un sermon d'un jeune prêcheur écossais de la fin du XIXe siècle, sermon basé sur 1 Corinthiens 13. C'est publié par une maison, grande maison d'édition française, et c'est adapté. Ce sermon est adapté pour le grand public. Ce n'est donc pas plus un sermon purement spirituel, mais qui parle de tout ce qui est l'amour. J'ai trouvé une proposition néanmoins intéressante, à savoir lire une fois par jour ce passage de 1 Corinthiens 13 ou une fois par semaine pendant 3 mois. Consacrer un peu de temps à l'art d'aimer, de prier et méditer. Je n'ai pas trouvé ça idiot du tout. Parce que l'auteur dit que quelqu'un a changé dans sa vie à la lecture régulière de ce passage d'1 Corinthiens 13. Il y est aussi question des moments les plus marquants de la vie, qui sont ceux touchés par l'amour, ou ceux où nous avons fait, l'air de rien, quelque chose de bon pour quelqu'un. À méditer. Je clôture cette prédication par 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous aimons les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et au verset 19 de ce même passage, quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Prenons donc la peine de relire 1 Corinthiens 13 régulièrement et voyons quel impact cela pourrait avoir sur nous.